Bienvenue dans des goûts de bouffe.
Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe.
Ainsi, tous les 15 jours, on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée limitée.
Pour chaque vente, The Good Bouffe reverse 10% de ses bénéfices à une initiative solidaire choisie par notre invité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Good Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui est aux anges aujourd'hui car il profite d'un cadre merveilleux dans la plus belle région du monde. Bonjour Daniel.
Bonjour Philippe, je suis ravi d'être ici avec toi aujourd'hui.
Et oui, c'est un épisode très très spécial pour nous parce que c'est la première fois déjà qu'on enregistre un épisode en dehors de Paris et ça fait du bien. Et c'est un épisode très très spécial pour moi en particulier parce qu'on est dans ma région d'origine, ma région chérie. Alors ceux qui me connaissent et ceux qui nous suivent régulièrement l'ont déjà compris, nous sommes en Pays de Savoie, et plus particulièrement en Haute-Savoie, à Megève. Nous sommes avec un chef que j'estime particulièrement. J'ai eu la chance de le rencontrer dans une vie précédente, lorsque j'avais l'honneur de m'occuper d'une très grande maison de champagne, la maison Krug, pour le groupe LVMH, où on avait à l'époque créé un restaurant éphémère à la Samaritaine en 2012, qui est une année très particulière pour notre invité, parce que c'est l'année où il a obtenu sa 3e étoile, et c'est l'année où il a été élu chef de l'année par ses pairs. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Renaud. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Alors dans The Good Bouffe, on s'intéresse particulièrement au savoir-faire de notre invité avant de le laisser présenter une expérience inédite qui reflète son univers et qu'il a imaginé pour nos auditeurs. Mais avant cela, Emmanuel, on souhaiterait revenir sur ton histoire, ton parcours et que tu nous parles de ta relation fusionnelle avec le terroir savoyard. Donc je te laisse d'abord te présenter en deux mots pour nos invités.
Sachant... Alors, parisien d'origine et amoureux de la montagne, donc dès que j'ai pu quitter la ville, je me suis accroché à la montagne. Alors dans différents endroits, j'ai commencé par faire mon armée à Chambéry, après je me suis déplacé, enfin j'ai fait une formation de cuisine un petit peu partout, que ce soit sur Paris, après je me suis rapproché vers Annecy. Ouais. Et puis il y a 22 ans, en 97, après un passage éclair d'une année à Londres, je me suis installé à Megève en rachetant une pizzeria. Et puis depuis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tranquillement avec différents établissements et depuis peu, un nouvel établissement qui est sur Chamonix aussi.
Ouais. Bah, tu vas pas t'en sortir comme ça parce qu'on va te poser des questions pour chaque étape on va rentrer dans les détails, on veut tout savoir. Mais juste une question rituelle avant de démarrer, on a une question qu'on pose dans chaque épisode, c'est pourquoi la bouffe? Comment tu es arrivé dans cet univers-là?
Pourquoi la bouffe? Déjà parce que j'aime manger, j'aime les bons produits, j'aime la nature, et j'aime ma région, on va dire adoptive. Et c'est vrai que quand on a un métier passionnant et qu'on arrive à le faire où on aime vivre, c'est quand même, moi je suis un amoureux de la montagne, mais que ce soit l'hiver, l'été, les balades, l'escalade, le ramassage des champignons, enfin tout ce qui peut y avoir, ce qui peut se rapprocher à la montagne. Donc c'est bien de pouvoir, après c'est plus du travail, c'est juste de la passion, puis de passer des bons moments. J'aime travailler, je sais pas si c'est à la mode de dire j'aime travailler, mais ouais, je suis un gros bosseur et j'aime me lever de bonne heure, j'aime me coucher tard et je travaille pas mal pendant la journée, donc c'est pour moi le travail c'est une passion.
Surtout quand tu ramasses des champions, tu t'élèves assez tôt. Bon, tu vas nous raconter ça en détail, comment tu les fais. Et une question, en fait, moi, je ne savais pas, je pensais, je connaissais un peu ton histoire, mais pas en détail. Je ne savais pas que tu n'étais pas savoyard, en fait. Et j'ai découvert plus tard que tu viens du nord de la France. Tu peux nous raconter un peu ton enfance, ta relation avec la cuisine à ces moments-là?
Alors, je suis né en région parisienne, dans le Val d'Oise. Et ensuite, mes parents déménagent dans l'Aisne. Donc à côté de la ferme de mon grand-père,
d'accord.
Donc, rapproché à la campagne, assez proche de la nature, parce que même là-bas j'aimais ramasser les champignons, j'avais déjà un rapport avant d'avoir un choix de cuisine de métier, j'avais déjà un rapport avec la nature qui était assez proche, donc assez me balader souvent seul, j'aime bien me balader seul, aller cueillir, aller flâner, aller voir les animaux, tout ce qu'il peut y avoir dans la nature.
Donc ça, et déjà tout petit.
c'est déjà une base de, ouais, de vie, de d'aimer tout ce qui est nature. Et puis après l'évolution s'est fait que j'ai eu la chance de partir en vacances à la montagne. Et puis après j'ai toujours eu l'envie de dire voilà, je ferai ma vie à la montagne, sans savoir ce que j'allais faire comme métier, mais avant tout, j'étais persuadé que je vivrais autour du Mont Blanc ou au pays du Mont Blanc pour faire mon travail, pour faire ma passion, avant de savoir que j'étais cuisinier.
Et non. C'est la montagne avant la bouffe.
À la base, ah, oui. D'accord. À la base, alors.
Bon, maintenant, évidemment, mais ouais.
Alors après, c'est l'amour de manger, de partager, de donner, parce que je pense que pour ce métier-là, faut être généreux, faut aimer faire plaisir, faut aimer se faire plaisir. Ouais. C'est des métiers de passion où faut se réveiller en aimant les gens. Mmh. En aimant les gens pour leur faire plaisir. J'ai l'impression, je reçois les clients midi soir ou que le soir, plus souvent maintenant plus que le soir, mais en me disant c'est des amis, on est là pour qu'ils ressortent avec un moment de bonheur, avec un moment suspendu pour eux, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des personnes qui vont casser la tirelire pour venir chez nous. Et c'est important. Alors, je m'oblige même pas. En tout cas, si je suis pas au restaurant, le restaurant est fermé.
D'accord.
Donc, j'estime que le client peut avoir fait peut-être quelques kilomètres, mais il y en a qui font plusieurs centaines de kilomètres pour venir nous voir. Et par rapport, j'aime respecter mon client et j'estime que je dois être en cuisine. Donc,
c'est qu'il n'y a pas les cas dans tous les grands restaurants.
Oui, mais après, c'est pas une critique par rapport aux autres. C'est un cahier des charges que je me suis donné moi. J'estime que les clients font le déplacement et que je suis toujours là. Alors, ça m'arrive une fois par an ou deux fois par an pour des raisons vraiment importantes où je suis absent. Mm-hmm. Mais, et à ce moment-là, je prends le téléphone moi-même et j'appelle le client lui disant pourquoi je peux pas être là.
Super.
Exactement. Mais sinon,
très proche de tes clients. Okay.
C'est le minimum qu'on doit faire. Enfin, c'est sur mon. C'est moi, pareil. Hein, j'ai des amis chefs. Si j'appelle et je passe pas loin de chez eux et je leur dis tiens, je viens manger chez toi, ils me disent ah mais je suis pas là. Je leur dis non, je viens pas.
Je veux pas. Ouais,
moi, si je viens, c'est pour te voir, c'est pour passer un moment avec toi, c'est un moment de partage. Donc il y a des choses qui peuvent être très. Très carré dans la cuisine, mais il y a aussi des choses qui sont spontanées.
Bien sûr.
Et les choses spontanées que je change au moment du service, si je ne suis pas là, ils ne pourront pas les avoir.
C'est clair.
Donc voilà, c'est aussi
pour ça. Et juste une précision qu'on n'a pas précisée au début de l'enregistrement, c'est qu'on est dans la cuisine en fait, de ton restaurant aujourd'hui. On a fait exprès d'enregistrer cette première partie dans la cuisine, justement pour pouvoir faire cette immersion dans ton univers et avec les bruits de fond qu'on entend.
Ou les bruits, mais qui sont très sympathiques de ta brigade.
Il y a quoi ? Il y a une quinzaine de personnes là qui travaillent à ces moments.
Ouais, on est une vingtaine dans l'équipe. On n'est jamais 20 à la fois, parce qu'avec les rotations. Mais on est un peu plus d'une vingtaine dans l'équipe. Et puis là, c'est le moment des préparatifs. Alors,
ouais, ça bosse dur là.
Ouais, ça va, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. C'est assez plaisant. On a la chance d'avoir deux fenêtres sur la nature.
Ouais, le cadre est exceptionnel. Hein.
D'avoir le garde-manger à l'extérieur, parce que je sais pas si vous avez vu depuis votre arrivée, vous avez dû voir quelques cuisiniers passer ou vers le fumoir ou aller cueillir des herbes dans le jardin.
Ça, on va y aller après. Tu vas nous emmener là-bas, ça va être super. Tu vas nous raconter tout ça. Est-ce qu'on peut revenir à tes débuts justement? Où est-ce que tu as suivi tes formations? Où est-ce que tu as fait tes premières classes?
Alors, je fais un apprentissage de cuisinier dans l'Aisne.
Ouais.
Donc dans un CFA pour passer un CAP. J'aime la cuisine, mais je suis pas encore piqué, passionné, voilà. Et puis j'ai mon frère qui travaille sur Paris en tant que sommelier. Et puis je décide de faire mes armes à Paris. Alors je commence par faire des petits extras droite à gauche. Puis après je vais au Loti en face chez mon ami Dutournier.
Ouais.
Et puis après, j'ai la chance de taper un soir à la porte du Crillon, parce que c'était une maison qui me passionnait de vue de l'extérieur. Et en frappant à la porte, je rencontre le chef,
Christian Constant,
et qui me dit, bah tiens, ça tombe bien, on a un jeune qui est parti ce matin, si tu veux, demain tu viens. Et j'attaque le lendemain matin sans avoir posé de CV, en passant devant. Et bon, maintenant on a d'autres moyens mais à cette époque-là on pouvait quand même encore aller quelque part, frapper à la porte, dire est-ce que je peux voir le chef. On arrivait à le voir. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, je commence là-bas et j'ai la chance là-bas d'être avec une multitude de
talents, quoi.
De talents, ouais, voilà. Tous reconnus maintenant, que ce ouais, soit
Eric Fréchon,
Fréchon, Candeborn, j'en passe. Et il y en a énormément, que ce soit. Qui je pourrais vous dire.
Ils se reconnaîtront.
Toute l'équipe du Crillon à cette époque-là.
Christian Constant à l'époque.
Était assez extraordinaire. Alors, le fait d'être dans une cuisine avec un bouillonnement de talent et puis de passionnés de cuisine, c'est juste, on y immergeait dans la cuisine. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment eu la passion du métier. C'était dur.
Ouais.
C'était dur, mais.
Combien de temps?
J'ai fait une année.
Une année.
J'ai fait une année, un peu plus d'une année, un peu plus d'une année. Puis au bout d'un peu plus d'une année, j'avais envie de retourner en montagne.
Ouais.
Et j'ai une année ou une année et demie ou deux ans peut-être. Enfin, tout passe tellement vite à cette époque-là.
Oui,
c'est
pas...
Et je frappe à la porte de chez Vera,
ouais.
À Annecy, en lui disant bah tiens, je ferais bien une saison avec vous.
À l'Éridan à l'époque.
À l'Éridan, ouais. Au Petit Port et.
Donc là, il a pas encore 3 étoiles, il a 2 étoiles.
Ouais, ouais, tout à fait. Et il me dit bah hop, pareil, sur un coup de téléphone, je me retrouve quelques mois après. Il me dit tiens, au mois de mars, là, quand la saison commence, telle date, 1er mars, tu viens. Mais il y avait pas de contrat, c'était juste un contrat par téléphone, ouais. Un contact rapide, voilà.
Toi, ça te permet de t'implanter dans la région que tu adores.
Voilà, exactement. Et puis je pensais passer une année, et en fait, je reste 3 ans.
3 ans. À quel poste? T'as démarré à quel poste?
Alors, je commence par demi-chef de partie,
ouais.
et je finis sous-chef.
Second, ouais.
Avec 2 autres sous-chefs au-dessus de moi. Et comme j'avais pas mal d'envie, j'avais un peu les dents longues.
Ouais.
Quand on est jeune, c'est normal.
Ouais,
on a envie d'aller vite, d'aller loin.
Tu avais quel âge à cette époque-là? Même pas 30 ans ou...
Ah non, même pas 30 ans. Je me suis installé à 30. J'ai ouvert mon premier restaurant à 30 ans.
À 30 ans,
donc, ouais. Voilà, t'es allé super vite, en fait.
Donc, suite à ce passage, je me retrouve à avoir envie dans la vie de mon compagnonnage, parce qu'en même temps, je suis compagnon du Tour de France, donc je faisais en même temps le compagnonnage.
Ah.
Dans cette même optique, je me dis tiens, j'ai envie d'aller chez Yves Turiès, que j'avais déjà eu en contact personnel chez les compagnons,
mm-hmm.
pour me perfectionner dans son restaurant à Cordes et en même temps de faire de la pâtisserie.
Ouais. Ah d'accord.
Et c'était chez Yves, je me souviens pas. Ça passe tellement vite. Mais enfin, il y a une trentaine d'années, pas loin.
Parce que la pâtisserie, c'était un domaine que tu connaissais moins, en fait.
Que j'aimais, mais que je connaissais moins. Donc, ouais. Je me retrouve pendant une année chez Yves à faire cuisine, pâtisserie. On avait même à l'époque, ce qui est un peu amusant maintenant, on avait même un menu où c'était tout dessert. Parce que c'est
tout
quand
dessert.
Même. Tout dessert.
Tout
c'est quand même.
Tout sucré.
Monsieur Turiès est quand même meilleur ouvrier de France. En pâtisserie et glacerie.
Ah, d'accord.
Voilà. Et il avait à Cordes-sur-Ciel, on avait des menus classiques et on avait un menu tout dessert. Ça veut dire que les gens arrivaient pour manger que des desserts. Et ça, c'était assez amusant. Amusant, intéressant. Et c'était assez cool. C'était pas des saisons de dingue. C'était super cool. Donc, ça me permettait de faire la cuisine et l'après-midi d'aller tirer du sucre. D'aller voir les chefs pâtissiers et puis
d'apprendre quoi.
Ouais, d'apprendre, voilà. Donc j'ai fait une année là-bas où j'ai beaucoup appris. Je suis resté un peu plus longtemps où je me suis occupé avec Gérard Pro, c'était un peu le responsable du magazine du Turiès magazine.
Mm-hmm.
J'ai eu le plaisir de pouvoir faire quelques recettes pour eux, pour le Turiès magazine.
Ouais.
Et puis j'ai Marc Vera qui me rappelle en me disant tiens Manu, t'es parti l'année dernière, j'ai apprécié ton travail pendant quelques années. T'es parti parce que j'avais mes sous-chefs qui étaient en place.
Ouais.
Mais je voudrais que tu reviennes pour passer numéro 1. Parce qu'en fait, moi, je lui ai dit, voilà, je suis là, je suis un peu la troisième roue du carrosse.
Donc ça, c'est un rôle
je fais mon travail, c'est bien,
ouais.
Mais je suis un peu bloqué au niveau de mon envie d'évoluer. Donc, je pars et puis peut-être que je reviendrai plus tard. Et c'est lui qui m'appelle un petit peu après pour me dire, bah tiens, si tu veux revenir, il y a la place qui va se libérer pour que tu prennes en charge la cuisine.
De l'Éridan. Juste avant de reparler de Vera, tu parlais du compagnonnage, c'est intéressant parce qu'on connaît moins. Comment ça se passe le compagnonnage concrètement pour un chef?
Le compagnonnage, c'est quelque chose qui est plus très à la mode.
Oui, son emploi.
Mais
pas
c'est,
trop.
Oui, c'est le compagnonnage. Il est plus présent dans les métiers du bâtiment.
Oui, c'est ça.
Il y a différentes sociétés dans le compagnonnage. Il y a la fédération où il y a plus les métiers du compagnonnage, du bâtiment. Mm-hmm. Et il y a l'union compagnonique où il y a les métiers du bâtiment, mais aussi il y a les métiers de bouche.
Ouais.
Et donc le compagnonnage c'est ni plus ni moins des transmissions, des passages de témoins. Alors il y a des époques où il fallait être compagnon pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir les passes droits, pour avoir des tours de main surtout dans le bâtiment où les gens allaient voir des compagnons tous les bâtisseurs de cathédrales. Mm-hmm. Donc c'était et ils prenaient que des compagnons pour pouvoir continuer les rénovations ou autres, et encore maintenant. Ouais, alors dans la cuisine, le plus connu des compagnons, c'est Joël Robuchon,
ouais, d'accord.
C'est Benoît Violier, ouais. et j'en passe, Frédéric Canton, enfin il y a quelques Guy Krenzer, enfin il y a quelques, en tout cas c'est des gens qui aiment le métier et qui aiment surtout transmettre, parce que nous notre métier dans le compagnonnage c'est d'avoir, où on a eu une transmission par d'autres personnes, mais l'important c'est de pouvoir le transmettre aux autres, et le plus grand travail du compagnon c'est de transmettre aux autres.
C'est intéressant parce que j'ai écouté quelques interviews que tu as accordées, et tu parlais vraiment de ton époque quand tu étais plus jeune, les chefs ils cachaient leurs recettes en fait.
Ouais.
C'était moins une démarche de transmission, ouais. Et plus de garder son secret quoi.
Mais c'est vrai qu'avant les chefs pour voir les tours de main, fallait regarder sur au-dessus de l'épaule.
C'est ça.
Au-dessus de l'épaule.
Alors que maintenant tout est accessible.
On était dans un coin épluché des épinards à faire des pommes chips ou des épluchures ou des choses un petit peu rébarbatifs, mais quelque part quand on est commis de cuisine, maintenant ça va tellement vite qu'un commis de cuisine il sort de l'école, il est déjà plus commis, il est déjà chef de partie, il est déjà sous chef avant de commencer. Mais quelque part, c'est le fait de faire des basses besognes entre guillemets, ça permet de pouvoir ouvrir les yeux et de voir plein de choses. Mm-hmm. On réfléchit pas à ce qu'on fait.
Plus attentif, ouais. Quoi. Ouais. Ouais.
Tout à fait. On fait des gestes, et puis il y a des gestes qui s'apprennent. On peut voir comment on désosse, on lève un poisson, on épluche un légume, mais on sait le faire quand on en fait un, quand on en fait deux, quand on en fait trois. Mais on n'a pas la dextérité si on en a fait...
milliers, quoi.
Exactement.
C'est pas la même chose, on est d'accord.
Et la répétition du geste, il y a des choses qui s'apprennent, mais il y a des choses où la répétition du geste est obligatoire pour apprendre de la dextérité, de l'entraînement.
Bien sûr. Hein? Ça, comme tout, c'est comme les sports, comme n'importe quoi.
Moi, je compare la cuisine souvent à du sport, où on est obligé d'être en permanence. Moi le premier, hein, je vais abandonner quelque chose, une tâche de cuisine à faire, et avant d'être aussi bien dans le détail, il va falloir que j'en refasse quelques-uns pour se refaire la main.
Voilà, c'est normal.
Pour se garder l'entraînement.
Ah, mais voilà. Bien sûr. On sait faire du vélo, mais avant d'être bon sur le vélo, il faut en faire des kilomètres.
Il faut reprendre un petit peu.
Voilà, à la fin de l'hiver, il faut refaire quelques kilomètres avant de passer l'école facilement, sinon on souffre.
si on revient sur les années Vera, qu'est-ce que tu gardes de ces années avec cette collaboration avec ce chef emblématique de la gastronomie savoyarde et même gastronomie française?
C'est quelqu'un d'entier, hein, à tout niveau, hein, que je respecte beaucoup. On a passé de très bons moments. Enfin, heureusement,
t'es resté un petit moment avec lui.
Je suis resté 7 ans avec lui. Donc, je suis resté 7 ans avec lui et quand j'ai repris la place, je lui ai dit Marc, je reste avec toi jusqu'à temps qu'on ait 3 étoiles.
Ouais.
Et quand on est 3 étoiles, ouais. je fais une année ou 2 ans et après j'ai toujours eu l'objectif d'être chez moi. Parce que pour moi, ma plus grande richesse, c'est d'être chez moi et avoir la liberté de faire ce que j'ai envie. Ça, pour moi, c'est indispensable.
Ça, c'était le contrat avec lui, c'était très clair. Et c'est bien de le rappeler. Donc, quand tu reviens chez Vera comme second, il est encore 2 étoiles.
Ouais, ouais.
Donc, c'est ensemble que vous obtenez la 3e étoile.
Oui, ouais, enfin, il obtient la 3e étoile avec moi en tant que... C'est lui qui a décroché la 3e étoile et j'étais là pour l'aider, pour mettre en place des choses.
Et tout de suite, ça t'a donné envie, je suppose, là tout de suite, de partir sur ton rêve qui était ouvrir ton propre resto.
Oui, tout à fait. Après, c'est des objectifs, c'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir créer sa maison, de pouvoir avoir son identité.
C'est clair.
Et juste pour finir avec Marc Vera, est-ce que tu dirais que c'est lui qui t'a donné cette passion du terroir savoyard et ce lien avec le... avec le terroir, avec les producteurs, avec les plantes. Bah,
c'est surtout que je
suis venu déjà.
Je suis venu chez lui parce que j'avais l'amour du terroir, l'amour de ramasser les plantes, ouais. tout ce qui était par terre m'intéressait. Ouais. Donc déjà,
avant.
Ouais. Je suis allé chez lui parce que à cette époque-là, j'ai regardé quel chef va pouvoir me correspondre en étant à la montagne. Autour du pays du Mont-Blanc, me dire tiens, où est-ce que je vais aller? Et à cette époque-là, il y avait que lui comme chef emblématique où il passait un message avec une cuisine spontanée, une cuisine un peu hors cadre par rapport à ce qui se faisait à l'époque et une cuisine qui me correspondait par rapport à la naturalité.
Super. Bah, je te propose, Emmanuel, de parler donc des flocons d'aisselle et de passer dans la salle à côté pour continuer cette conversation. Ça te va?
Très bien.
Super. Alors, on attaque la deuxième partie du podcast avec Emmanuel Renaud. On était tout à l'heure dans les cuisines. Aujourd'hui, on est dans la salle du restaurant. Et on va parler plutôt justement maintenant de l'histoire du flocon de sel. Donc, on a parlé de ton parcours avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, même si tu nous en as déjà un peu parlé tout à l'heure, pourquoi tu as décidé de te lancer à ton compte et comment ça s'est passé.
Bah après, c'est le fait de se lancer à son compte, c'est une façon de vivre, d'être autonome, de gérer ses décisions, d'être responsable des décisions de tous les jours, et puis d'avoir une certaine liberté sur l'expression dans le travail et dans la façon d'utiliser la journée. Donc pour moi, la liberté, c'est de pouvoir aller me promener si j'ai envie de me promener le matin aller aux champignons, de pas avoir de montre. Voilà, c'est surtout ça, et puis de pouvoir avoir une expression libre dans ce que je fais.
C'est clair.
D'avoir une vraie signature qui soit différente de ce qui se passe dans la ville et qui colle vraiment au terroir, qui colle à la météo, qui colle aux saisons. C'est un choix de vie depuis toujours. Même si maintenant c'est des modes, des modes de travailler. En tout cas, moi c'est pas une mode, c'est une façon de travailler depuis toujours.
Surtout que là on est en 97, c'est ça?
Oui.
En effet, c'est pas hier. Comment ça se passe? Quel déclic t'as eu?
Bah, 97, je travaille à Londres, et où je rencontre mon épouse.
Ah, tu as quitté, cette partie de ta carrière, j'ai zappé. Donc, tu as quitté Vera pour aller à Londres, en fait.
J'ai quitté Vera pour partir à Londres. Je devais partir au Japon.
D'accord.
Et, le contrat au Japon, c'est pas fait. Donc, j'ai eu mon ami, je parlais de Guy Krenzer, qui me dit, tiens, j'ai mon frère qui est FNB au Claridge, et il cherche un chef, est-ce que ça t'intéresse? Bon, j'ai dit, bah, pourquoi pas, je vais le voir. Donc je fais un saut à Londres, on fait deux testings, on se rencontre, ça accroche bien avec le business là-bas, avec le Claridge, donc je décide de partir pour faire une expérience londonienne.
Mais on est loin de la montagne, là.
Loin de la montagne, mais je revenais régulièrement, c'est pas très loin, mais par contre, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, le fait de partir de la montagne, d'avoir une rupture totale avant de revenir. Voilà, d'avoir une vraie rupture. C'est le fait de travailler en ville, de se retrouver dans une grande métropole où il n'y a pas vraiment de racines culinaires, où on peut faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi.
Tout est ouvert.
Tout est ouvert, voilà. C'est plutôt ça, parce que n'importe quoi, c'est pas très qualitatif.
Ça valorise pas trop.
Exactement. En tout cas, d'avoir une ouverture sur tout, d'avoir une liberté totale. Et parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'arrive à Londres, j'ai l'impression qu'à Londres on mange mal, que c'est pas très bien. J'ai une image pas très réaliste de ce qui se passe à Londres. Et en fait, je m'aperçois que c'est une ville qui est énorme, qui bouge, où on mange divinement bien avec des goûts de tous les pays, de toute la planète.
Très cosmopolite, quoi.
C'est vraiment une belle ville. J'adore Londres au niveau à tous les niveaux, que ce soit la façon de vivre. J'aime l'humour des Anglais, je trouve que c'est des gens qui vivent entièrement.
Et j'étais écouté, tu parles très bien anglais, en fait. Tu as appris à cette époque-là ou
je parle pas très bien anglais, je me fais comprendre. J'arrive à donner des cours de cuisine en anglais, j'arrive, mais si on me met devant devant on va dire que j'ai l'anglais de cuisine.
Oui, bon.
Pour m'exprimer, pour aller voir les clients, pour avoir un minimum. Mais après, c'est aussi la chance de avec notre métier de pouvoir voyager et puis de.
C'est clair. Et ici, tu as beaucoup des clients étrangers, anglo-saxons, non?
Ouais, on a un petit peu de clients étrangers, mais notre plus grande clientèle, c'est quand même, en tout cas des francophones.
D'accord.
Beaucoup de francophones, beaucoup de clients réguliers, habitués.
Des Suisses aussi, Belges.
Oui, quand je dis francophone, c'est voilà, oui, voilà, oui, Suisse, voilà. Belge. Mais on a une clientèle. On a 80% de clients habitués.
D'accord. Top, voilà. Ça.
Donc on n'a pas des périodes où on a beaucoup d'étrangers. Non, c'est assez régulier et c'est tout le temps des clients qu'on connaît.
Tu as combien de couverts là?
Bon, en ce moment on est une trentaine de couverts. On arrive
à 30. Du Covid en fait.
Exactement. On peut monter à 35, 38. Ça dépend un petit peu de la configuration du restaurant.
D'accord. Super. Et si on revient juste à la première version du flocon de sel, en fait, c'était dans les centres des Megèves. C'est une ancienne pizzeria que tu as récupérée, c'est ça?
Tout à fait. Je rachète une pizzeria en 97 et puis.
Avec tes économies comme ça tout seul.
Tout à fait. J'avais la chance de mon passage à Londres où je gagnais pas mal d'argent. J'avais été un peu pour ça aussi. Et en tout cas, ça m'a permis de pouvoir, en tout cas, mettre la première brique sur la maison. Donc, on a quelques années, on a travaillé là-bas. Et puis, après 10 ans, j'ai réussi à avoir, qui est toujours mon bistrot maintenant. Ouais. On a réussi à avoir 2 étoiles dans le centre-ville. Et puis, j'avais une cuisine qui était microscopique. Donc, j'avais envie de pouvoir m'émanciper davantage, de pouvoir. Il y avait des choses que je m'interdisais parce que techniquement, je pouvais pas les faire.
À la place, quoi, en cuisine. Voilà.
Tout à fait.
Là, ta cuisine, elle est grande, quoi. Elle fait quelle taille?
Je sais pas du tout. Bah, c'est grand. Pas le nombre de mètres carrés, mais on a une belle cuisine ouais. qui est assez spacieuse.
Ouais. Et justement, donc entre 1997 et 2008, quand tu as ouvert ici, tu as eu 1 étoile d'abord, 2 étoiles, et tu as passé aussi les concours des MOF en fait.
Oui.
Tu as fait tout ça en même temps que tu gérais ton propre resto. C'était une période difficile ou comment tu as?
Non, bah après c'est vrai, on dort peu, mais.
Parce que MOF, tu prépares beaucoup, non?
Bah, mais la nuit. je faisais les services la journée et puis le soir après le service je faisais les entraînements de nuit. Oui.
Ouais. Ah ouais. Parce que MOF évidemment c'est un concours, c'est particulier, s'il faut s'entraîner, pourquoi tu décides de passer ce concours à ce moment là alors que tu as déjà des étoiles, tu as de la reconnaissance, veux autre chose?
Je décide pas de le passer à ce moment là puisque je l'ai passé en 96 quand ouais. j'étais chez Vera. Je l'ai passé en 2000 et je l'ai eu en 2004. Donc, je l'ai passé trois fois.
Ouais.
Et parce que c'est à chaque fois, les fois précédentes, je suis pas passé très loin.
Ouais.
Dans le détail, mais ça, c'est les concours. Puis le concours,
c'est une journée.
Le concours, c'est une journée. Il faut que ça glisse, il faut que tout se passe bien. Il y a des jours où tout glisse. Et en 2004, j'ai passé le concours où j'ai trouvé ça presque facile. Où c'est des journées où tout se déroule comme t'as envie, tout file, tout bien. C'est le concours de meilleur ouvrier de France, c'est un concours contre soi-même.
C'est
parce que c'est 5 heures de travail, on s'entraîne pendant des semaines, des journées, des nuits, et puis après c'est le jour J où il faut être bon. Et puis je pense que le concours du meilleur ouvrier de France, c'est le jour d'après, c'est le jour où on est MOF, où il faut toute sa vie après l'honorer, ouais. honorer le titre. Voilà. Quand on respecte le titre de meilleur ouvrier de France, il faut le respecter surtout après l'avoir dans notre démarche d'exemple.
Tout à fait. Et même le fait d'avoir un resto, ça t'oblige d'être consistant pendant toute l'année, en fait. Il faut que tu sois bon tous les jours. Tu peux pas être bon un jour. Si moi, je suis client habitué, j'y viens une fois, c'est délicieux. La deuxième fois, c'est moins bon. Ça marche pas.
Non, il faut que ce soit différent. Il y a toujours des choses qui changent, mais il faut toujours être de toute manière. Toute ma brigade, moi j'ai la chance d'avoir une brigade de jeunes passionnés. C'est des gens qui aiment faire le bon, le beau, que ce soit dans le produit, dans notre démarche.
C'est clair.
Donc, en 2008, tu déménages ici, tu t'installes dans cette. Donc avant, c'était quoi? C'est une vieille ferme du 19e siècle, c'est ça?
Ah non, non, la vieille ferme du 19e siècle, c'est dans le centre-ville.
Ah d'accord.
C'est dans le centre-ville où on a repris la pizzeria. Ici, il y avait un bistrot, une ancienne ferme aussi, mais quelques années avant que je rachète, elle brûle. Donc il n'y avait plus rien du tout. Donc on rachète le Grenant.
Pas un fonds de commerce, tu rachètes le terrain,
même,
quoi.
Non, même pas un fonds de commerce, c'est un de mes amis clients qui était propriétaire du terrain et il savait que je cherchais un terrain pour pouvoir avoir pour changer mon restaurant et qui me dit si tu veux le restaurant est brûlé, le terrain si ça t'intéresse
il est magnifique,
il est libre et c'est vrai que le fait d'être à quelques kilomètres du village mais en pleine nature. Ça veut dire qu'on est à 5 minutes du centre-ville, mm-hmm. mais par contre, on est en pleine nature et ça nous permet d'être un petit peu... On voit pas l'afflux de la clientèle pendant les grosses périodes où on se retrouve à 40 000 personnes dans le centre-ville. Ouais, ouais. Ici, on le voit pas.
Ça reste calme.
Voilà, ça veut dire qu'on soit en basse saison ou en haute saison, ici, c'est toujours la même atmosphère.
Ouais. Ça, c'est un luxe.
Puis tu te dis, t'es en pleine nature, tu te rapproches des champignons, tu te dis certainement qu'en emménageant ici, tu vas avoir ton propre potager. Ça, c'est venu tout de suite. C'est dès l'idée de départ, tu voulais avoir un potager à côté, cultiver tes propres légumes, tes propres plantes aromatiques.
Oui, oui, j'avais déjà des... Même quand j'étais dans le centre-ville, j'avais déjà un petit jardin, mais qui était à droite, à gauche, petit. Donc là, ça me permet d'avoir... j'avais un joli jardin quand même, mais pas autant. Tandis que là, ça me permet de pouvoir, on va dire, être encore plus radical dans notre démarche.
Ouais.
Et je vois ça, et naturellement, tous les ans, le jardin s'agrandit.
Ouais. Mmh. C'est là... Nos auditeurs le voient pas malheureusement, mais on est dans la salle du restaurant et juste derrière nous, on a le potager, enfin une partie du potager. On ira faire le tour tout à l'heure. Là, je crois que derrière nous, on a les plantes aromatiques.
Ouais, on a un petit peu de. Ouais, il y a des légumes, il y a des plantes aromatiques, il y a pas mal de choses assez amusantes et puis ça permet aussi de dicter nos cartes.
Ouais, bien sûr.
Parce que les cartes, les menus, ils sont un petit peu dictés par rapport à ce qu'on va trouver dans le potager.
La saison.
Et justement, en parlant de saison, parce qu'on se posait la question. En arrivant ici, en fait, on est passé par un resto qui proposait des tomates et on se posait la question par rapport à la tomate, à l'altitude, s'il y a des tomates qui poussent là. La saison ici à Megève, à 1300 mètres, quel est l'impact de l'altitude par rapport à la saison? Elle est plus tardive, en fait, par rapport au...
Ah bah, c'est plus tardif. Ça veut dire que nous, on va pouvoir récolter des haricots et des petits pois au mois d'août.
D'accord, c'est décalé.
Voilà, parce que d'une part on les a plantés après. Là, on peut aller voir tout à l'heure. On peut aller récolter quelques pommes de terre nouvelles. On va avoir plein de choses. On va avoir les choux raves qu'on aura en septembre, octobre. Tout ce qui est choux fleurs, choux Bruxelles, choux pointus. On doit avoir, on doit avoir pas loin de 2000 choux qui sont plantés dans les jardins.
Ah, quand
2000.
Même.
Ah ouais. Ouais, à peu près, peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas exactement. Mais en tout cas, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais c'est pareil, c'est des choses qui peuvent rester en terre.
Mm-hmm.
Et puis quand il y a les choux, on les prend au fur et à mesure. Si on a besoin de 4 choux, on va chercher 4 choux. Si on a besoin de 10, on prend 10. Voilà. Les salades qu'on a, on en prend 20 par jour. On va les cueillir avant le service le midi. On va les cueillir avant le service le soir. C'est important.
Donc là, on est dans l'ultra fraîcheur.
Oui, mais c'est aussi le secret de la bonne cuisine, c'est d'avoir une réactivité par rapport à la demande, et puis de pouvoir ne pas se dire bah tiens je vais commander puis on va bien voir, non.
Bien sûr.
Là on prend vraiment ce qu'on a besoin, quitte à aller rechercher si on a besoin des fois pendant le service s'il nous manque quelques produits.
Ça vous arrive? Ouais.
Ah ouais, très régulièrement.
Il y a un gars qui part en courant, allez.
Tout à fait.
Ce qui est bien, c'est que la salle, on le voit, donc c'est
ouais,
génial.
Voilà, c'est génial. Ouais,
enfin, il y a pas que les jardins devant la salle, mais il y a d'autres jardins. Mais ça nous arrive en plein service d'aller dans la salle, enfin d'aller dans le jardin qui est juste en face pour récupérer.
Ah ouais, super ça.
Ouais, ça c'est.
C'est génial. Et justement, si on parle de ta cuisine, de ton style, comment tu la définirais ta cuisine?
Alors là, c'est
la question à 3000.
Non, mais ma cuisine est simple. En tout cas, j'aime que ce soit pas ostentatoire. J'aime pas la démonstration dans la cuisine. En tout cas, dans l'esthétique, dans la démonstration dans l'esthétique de que les gens arrivent et qu'il y ait une démonstration de complexité. Donc ça, c'est pas du tout mon style de cuisine. Même si j'ai quelques plats où ça peut être un peu technique, mais j'aime que ça se voit pas trop, que ce soit assez qu'on ait vraiment des goûts, du plaisir gustatif, tout en ayant quelque chose d'agréable et qui soit un tableau quand ça arrive sur les assiettes. Mais en tout cas, pas que ce soit ostentatoire dans la complexité.
Bien pensé, brut, et peut-être une découverte gustative avec une explosion des saveurs du terroir.
Voilà, souvent, les mélanges, je les fais virtuellement avant de les coucher dans l'assiette. Dire que je les goûte sans les goûter avant de... Puis après, c'est du réglage. Après, c'est du réglage, parce que quand on utilise des produits sauvages ou des produits qui sont dans le jardin, ils auront jamais le même goût. Donc après, c'est sur les amertumes, s'il a plu, s'il a eu du froid, il y a des fleurs qui sont pas là, il y a des choses qui changent. Donc, tout ce qui est, en tout cas, finition des plats, c'est dans le réglage du goût, des assaisonnements et puis aussi de la météo. On va pas faire les mêmes plats aujourd'hui s'il fait grand beau que si demain on perd 10 degrés et qu'il pleut. Voilà, il y a des plats qui vont pas pouvoir coller. Il y a des plats que je vais pas mettre à la carte s'il pleut.
Mais pourquoi? Parce que ça, j'adore ces sujets-là. On parlait récemment, on était avec les chefs sommeliers de la cave de la Tour d'Argent et on parlait des vins nature et des calendriers lunaires par rapport à la consommation des vins nature. Il y a des jours feuilles, des jours racines, les goûts changent, etc. Est-ce que pour les légumes, est-ce que tu ressens des choses similaires en fait?
Ah bah oui, les calendriers lunaires avec les jours fleurs, les jours feuilles. Voilà.
Pour la bouffe.
Si vous plantez un chou le jour où c'est un jour fleur, bah vous avez un chou fleur. Et si on a fait un chou vert.
On va la garder celle-là.
Elle est bonne. Non, ça a quand même des importances. Ça a des importances sur les légumes surtout.
Ouais, parce que tu parlais par rapport à la pluie et machin, je me dis la pression atmosphérique elle est différente et du coup en bouche on pourrait sentir des goûts plus intenses, moins intenses, plus d'amertume, moins d'amertume.
Le jour où il pleut, les fleurs elles n'ont pas le même goût. Mm-hmm. Rien que quand on se balade dans la montagne, aujourd'hui j'ai fait une promenade, mm-hmm, dans les bois, j'ai été voir s'il y avait quelques girolles que j'ai pas trouvées d'ailleurs. Ouais. Mais enfin ça m'a permis de voir qu'il n'y en avait pas.
Je suis allé vérifier,
je vois un petit peu les coins pour voir où est-ce que ça en est. Et ben alors je sentais je sentais tout ce qui était sec. J'avais les arômes qui étaient secs dans les bois. Et quand on va dans les bois, il pleut la veille ou l'avant-veille, c'est pas du tout les mêmes parfums.
On est d'accord.
Donc ça, c'est justement le fait d'avoir des senteurs comme ça. On peut pas les retranscrire dans l'assiette. On est obligé de s'adapter à la météo.
Mmh. Et juste une question par rapport à ta cuisine. Tu disais que tu as une clientèle qui vient souvent. Quand tu viens discuter avec tes clients en salle, quels sont les retours qu'ils te font? Pour eux, qu'est-ce qui les fait revenir en fait? Qu'est-ce que tu penses que les principales raisons?
Je pense que c'est l'expérience globale d'avoir une vraie cuisine nature, mmh, de se laisser faire, parce que souvent les clients qui reviennent, ils me laissent assez carte blanche sur ce que je fais et puis sur ce qu'ils ont eu. Après, je connais aussi leur goût. Donc ça me permet aussi de pouvoir aller sur différents clients, sur différentes pistes. Mmh. Puis d'avoir la liberté d'expression, c'est ça qui est bien, d'avoir une liberté d'expression totale quand on a une clientèle qu'on connaît ou on va pouvoir leur faire vivre autre chose. Alors, je leur ferai vivre des expériences avec des produits qu'ils connaissent, mmh, et puis d'autres recettes qui parce que l'important, c'est quand même bien d'avoir des bases et puis d'avoir des plats qui se renouvellent en permanence. Ouais.
Et quel impact tu joues pour toi le cadre? Parce qu'ici, on est quand même dans un cadre magnifique. On regarde par la fenêtre, on voit les montagnes, on voit ce potager. Est-ce que ça participe à l'émotion, à l'expérience? Tu parlais d'expérience tout à l'heure.
Ouais, je pense que le cadre met les gens dans le contexte. Mmh. Alors, mais après c'est le soir et après ça se concentre dans l'assiette.
Ouais. Mmh. Parce que ça reste l'assiette évidemment.
Ça reste l'assiette au démarrage. Ça va être les gens qui viennent à la montagne, ils veulent manger un bout de montagne. Ouais. Mmh. Ils veulent avoir les goûts qui se passe
pas
à l'intérieur.
La tartiflette.
Ouais, la tartiflette c'est bon à certains moments. Vous faites une belle marche en montagne, il pleut, vous êtes trempé, vous êtes content de vous mettre autour d'une cheminée avec quelque chose de roboratif et de consistant.
C'est clair.
Le fromage chaud, c'est bon.
On est d'accord. C'est pas moi qui vais dire le contraire.
Et l'hôtel, parce qu'en fait, c'est pas qu'en restaurant. Tu as un hôtel aussi, un hôtel 5 étoiles. On a rapidement visité. Il y a combien de chambres en fait ici?
On a 11 chambres.
11 chambres. Et c'est une activité qui existe depuis l'ouverture de Flocon de Sel. Tu as toujours eu cette envie d'avoir restaurant, hôtel?
Bah, c'est surtout un petit peu le fait d'être aubergiste, de pouvoir accueillir les gens et puis que les gens vont apprécier encore davantage, mmh, le fait de pouvoir rester tranquillement ici, d'être complètement détendu, parce que c'est vrai que quand on est ici, on est là pour se détendre, pour passer un bon moment, et c'est vrai que je vois régulièrement des gens qui me disent on repart, on a une heure de route parce que demain on travaille. ils vont pas, enfin,
ils savourent pas la même chose.
Si, si, ils vont certainement pas passer une très bonne soirée.
Un peu moins picolé.
Mais déjà.
Oui, oui, t'as raison, c'est possible. Il y a pas que ça. Il y a pas que ça, mais peut-être que s'ils étaient restés à l'hôtel, ils seraient peut-être pris une tisane tranquille au salon.
Bien sûr.
Relax.
Oui, c'est pas la même.
Et puis le matin, là, je voyais ce matin, les clients étaient en terrasse pour le petit déjeuner au soleil.
Ouais.
Je trouve que ça fait partie du moment.
Du charme.
Ça fait partie du moment et puis un peu de s'apercevoir. Il y a des clients qui arrivent le soir, ils voient même pas le jardin. Bon là, en ce moment, les jours sont longs, donc on arrive à le voir un petit peu, mais si dans les jours où les jours sont plus courts, ils voient pas ce qui se passe à l'extérieur.
Ouais. Il y a une odeur, on sent les alpages, on entend les cloches des vaches déjà ici, c'est clair que ça fait rêver quoi.
Et le fait d'être en Relais Château, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quelle est l'importance?
C'est une on va dire que c'est une marque que j'apprécie beaucoup et puis c'est un petit peu carrément à côté de se dire voilà, on a une maison, c'est-à-dire qu'on a une maison, il y a plein de maisons de partout dans le monde et puis on a un Relais Château. C'est différent. C'est un petit peu ça la différence, c'est une marque avec un label qui permet de montrer que c'est en général des maisons à taille humaine et des maisons toutes différentes. On ne pourra pas comparer un Relais Château qui est à Megève d'un Relais Château qui est...
Chacun a sa particularité, quoi.
Qui est au bord de mer, avec des tailles différentes. On va avoir des Relais Châteaux avec 2 chambres, des Relais Châteaux avec 20 chambres, avec des cuisines complètement différentes, avec des lieux. Et, en tout cas, c'est toujours des maisons d'hommes et de femmes. Donc, mon épouse, c'est un peu la maîtresse de maison. C'est l'âme de la maison, que ce soit... Dans le décor, dans la fabrication qu'on a créé l'hôtel et puis aussi l'âme de la maison dans le restaurant. C'est un petit peu le on va dire la définition des Relais Châteaux.
Bien sûr. Et juste une dernière question par rapport à ça. Tu me corriges si je dis des bêtises, mais j'ai lisé un article où on disait que tu as une spa ici aussi. Et c'est aussi un spa qui est inspiré du terroir parce que tu as tes crèmes qui sont des crèmes des saisons, qui varient en fonction de saison, qui utilisent des matières des montagnes. C'est bien le cas?
Oui, tout à fait. On a essayé d'avoir un vrai fil conducteur quand on a commencé le spa. Avec Émilie, notre responsable du spa, on s'est posé des questions parce qu'on a été approché par plein de marques pour savoir ce qu'ils voulaient nous vendre comme marque ou comme concept. Je me suis aperçu et en plus ils étaient à se dire voilà, nous on a la meilleure crème avec tel ou tel on a la meilleure crème avec les meilleures herbes, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est bon pour tout et on fait tel palace, tel restaurant, tel spa, enfin des spas qui sont sur ta planète.
Oui,
on s'est dit mais attends, ça nous correspond pas. Ouais. On essaye d'avoir quelque chose d'identitaire. Et une crème, ça reste juste, c'est une mayonnaise.
On est d'accord. Ma femme, elle fait à la maison toutes les crèmes et machin, voilà.
C'est juste de la cuisine, à part que ça se mange pas, mais je veux dire, ça se fait comme une mayonnaise.
Ça se pèse, c'est de la pâtisserie, quoi.
On peut aussi éviter de mettre des conservateurs quand on les fait frais.
Exactement.
Et puis après, on s'adapte. Alors, ça va être avec de l'abricot, ça va être avec de la myrtille, ça va être avec de la noix, ça va être avec de l'arnica, ça va être avec du sapin. Ça va être des choses. Donc, on a une carte du spa avec des crèmes, avec des huiles. Dans toutes les chambres, il y a de l'huile d'arnica.
Ouais, sympa.
C'est pour massage ou après une bonne balade d'avoir quelque chose de décontractant,
réparer le corps.
Oui, non, mais c'est vous faites une belle balade en montagne le soir, un peu d'arnica, c'est dynamique.
De bien.
Donc je pense que c'était plus une démarche dans la démarche du restaurant, d'avoir la même démarche dans le spa, d'avoir des crèmes adaptées aux saisons.
Avec des ingrédients locaux qui viennent de la montagne, qui s'inspirent de la montagne.
Exactement.
Mais justement, je te propose de parler maintenant un petit peu plus du terroir savoyard et ta relation avec ce terroir et cette nature fantastique qui t'entoure. Donc, je propose qu'on sorte dehors
avec plaisir
pour parler de tout ça.
On y va.
Alors, on aborde la troisième partie du podcast. Là, on va parler avec toi du terroir savoyard, de ta relation à la montagne. Donc, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette montagne qui t'inspire déjà personnellement, qui inspire ta cuisine?
Alors, le terroir, on va dire le terroir de la montagne, ça part des bords du lac. Ouais. Et puis après, c'est des strates. Ça veut dire qu'on a aussi bien des producteurs qui sont dans la vallée. Mmh. Alors, ça va être vers Machilly, où on a des framboises, des fraises. Ouais. On a notre producteur de bière aussi.
Ah ouais? Tu bosses avec qui en bière?
J'ai perdu son nom, mais c'est pas grave, ça me reviendra.
En tout c'est cas, du teasing, c'est
fait, non, mais on fait une bière avec notre partenaire, où nous on lui ramène des racines de gentiane qu'on va collecter, et lui concocte la bière avec des petites amertumes de gentiane, juste pour soutenir, pour montrer un peu forcer le terroir, et on fait un accord mets et vins qui est assez judicieux et assez amusant à utiliser. Donc on part des bords du lac, des que ce soit Machilly. Après, on va remonter sur Arta, ouais. Archand, où là, on a des personnes qui s'occupent de nous faire les plans. Ouais. On a des plans bio qui nous permettent de pouvoir
pour
le potager, et qui nous font aussi les cardons.
Ouais,
le cardon épineux de plein palais. Là, on a une belle spécialité, on a une belle saison, mais à l'automne, le cardon, c'est un légume qui est incontournable, qui a des goûts d'artichaut, qui est juste extraordinaire.
Que tu prépares comment? Parce que moi, dans ma famille, j'ai toujours entendu parler du gratin de cardon. Alors, j'imagine que c'est la revisiter ou tu fais autre chose.
Le gratin de cardon, c'est très très bon, mais le gratin de cardon, il a le goût du gratin, de la crème, du fromage, de la façon de le faire.
C'est la recette savoyarde. Nous, forcément.
On essaye de. Oui, mais c'est juste magnifique le cardon. Mais ça, on perd un petit peu ce goût on perd un petit peu le goût du légume. Et moi, j'aime le travailler simplement. Alors, où je le cuis entièrement dans du foin entièrement, et après j'en fais des tranches que je rôtis.
Ouais.
Où là on a des goûts d'artichaut, des goûts de vraiment, on a vraiment le goût du légume.
Ouais, l'expression du légume.
L'expression totale du légume. Mais après on le traite aussi comme un risotto, où là on met un petit peu de thym dedans, ou parfois de la truffe.
Ah ouais, ça c'est encore plus sympa.
Voilà donc
c'est gourmand ça.
Donc on a plein de légumes donc qui viennent de la vallée, et puis après on a nos producteurs qui se rapprochent. Alors on a aussi des personnes qui nous font nos œufs. On a des œufs.
T'as des poules là-haut, non?
Ouais, j'ai quelques poules, mais ma cinquantaine de poules, ça fait pas pour nous. Ça fait juste le matin pour faire les omelettes pour le petit déjeuner, pour faire quelques
fcottes,
mais pas pour toute la production en tout cas.
Bien sûr.
C'est plus pour le plaisir d'avoir quelques poules, surtout qu'il y en a quelques jolies avec des jolies plumes. Donc c'est aussi des plumes d'or, des poules d'ornement, pas voilà.
Et ce qui est sympa, c'est que nous, on a interviewé il y a quelques mois Pool House, une marque qui fait les poules qui tuent pas, les œufs qui tuent pas la poule, parce qu'ils envoient pas les poules en abattoir, etc. Là, j'ai 18 mois, je suppose qu'ici, c'est pareil, en fait.
Non, poules, surtout qu'on les connaît, les poules. Donc, voilà, j'aurais pas donné des noms, mais.
Mais j'ai pas 50.
En tout cas, elles sont pas là pour être mangées.
Voilà. Ouais, d'accord.
on essaye surtout de les rentrer le soir pour pas que le renard vienne les manger, mais en tout cas c'est pas nous qui les mangerons.
Et tu parlais des fruits, en fait c'est quels fruits qu'on retrouve en montagne? L'hiver je pose pommes, poires.
Alors oui, alors on a nos producteurs, et puis alors ils sont producteurs et en plus ils nous les conservent.
Ouais.
Parce que ça c'est important. Alors sur Ugine, j'ai monsieur Viguet qui est dans la vallée. Mmh. Donc Alain me s'occupe de me faire les pommes, les poires, de faire du jus de pomme aussi qu'on fait consommer, déguster le matin au petit déjeuner.
Ouais.
Voilà, je trouve que c'est plus dans le jus d'avoir des jus de pommes, de poires, de coing, fait dans la vallée
local,
que de presser du jus d'orange ou des pamplemousses le matin. Alors, en tout cas on a le rapport de proximité, que ce soit pour les légumes. Pour les fruits, alors les fruits, on a aussi bien sûr nos myrtilles,
mm-hmm.
parce qu'on a une grande richesse de myrtilles sur le Jaillet, mm-hmm. et ça doit faire une quinzaine d'années que j'ai les mêmes ramasseurs qui tous les ans me font mes récoltes de myrtilles pour l'année, alors que ce soit pour les coulis ou pour les confitures, ou même où nous on les congèle, on les conserve, où ils me ramassent entre 400 et 900 kilos de myrtilles, et qui me ramènent ça, comme mes ramasseurs de champignons, j'ai tissé un lien de producteurs amis, parce que j'aime bien savoir comment ils font, de quelle façon, qui nous amène chaque jour les produits au fil des saisons.
Ouais.
Et Vas-y, vas-y.
Ouais, et si on parle un petit peu du plateau de fromage, parce que si c'est quelque chose d'assez sérieux, le fromage, on n'en rigole pas, je connais mon sujet, et toi, je crois que tu es aussi un amateur de fromage. Comment tu t'approvisionnes en fromage? Quel type de fromage? J'imagine que tu as les grands classiques des plateaux savoyards, et tu as aussi quelques raretés, bleu de Termion, persil et de Tine, des choses comme ça.
Alors, oui. On a alors j'ai des fromagers qui s'occupent de nous aussi pour affiner. Ouais. Alors que ce soit Paccard Jean-François Paccard qui s'occupe de nous affiner les manigodines, qui s'occupe de nous affiner les reblochons parce que c'est bien d'avoir des paysans mais d'avoir la bonne personne qui nous les donne quand ils sont prêts à manger au bon moment. Voilà. Donc, ça c'est aussi un vrai travail. Après j'ai bien sûr le bleu de Termignon, moi je suis un peu drogué bleu de Termignon. Mignon.
Ouais, c'est un fromage exceptionnel. Je ne sais pas si tu connais Daniel, mais ça vaut le coup.
Voilà, donc ça, on a un producteur, Monsieur Bantin, qui s'occupe de nous faire quelques jolis fromages toutes les années. Donc ça, en plus, c'est un fromage qui n'a pas d'AOC.
Il n'y a pas d'AOC.
Non.
Il n'y a pas d'AOC. Donc je veux dire,
comment on fait pour protéger un fromage qui.
Mais plus que quelques producteurs, donc justement,
ils doivent être 5 personnes à produire ça quelques mois dans l'année. Mm-hmm. Avec une fabrication qui est très quelque part compliquée, c'est un bleu où il y a pas d'additif de pénicilline pour bleuir. Et en fait, c'est la traite se fait sur 3 jours et ils mélangent la traite du jour A avec le jour C en mélangeant les cahiers et ça leur donne une granularité qui est, enfin je sais pas si granularité si ça se dit, mais enfin le granuleux du fromage qui est très spécifique avec un goût très spécifique. Avec de mémoire, la ferme est à 2300 mètres d'altitude.
Morienne, à Termignon, on a aucun Termignon.
J'y étais il y a 15 jours, il y avait encore de la neige.
Ah ouais?
Voilà, ouais. J'étais faire la traite avec eux, j'ai passé une belle matinée avec eux. Et c'est vrai que c'est juste exceptionnel.
Ah oui, c'est clair.
Mais alors, c'est des personnes qui vivent à 2300 mètres pendant, à partir de mai jusqu'à fin septembre. Ça veut dire, ils bougent pas. Ils vont être là, les enfants, tout le monde est là, et pendant 4 mois, ils vont être là-bas à produire. Voilà. C'est un produit d'exception, mais c'est une niche. C'est des produits qui sont compliqués à faire. Et les quelques producteurs de bleu de Termignon, ils sont tous différents. Voilà, il n'y a pas ce cahier des charges où on va trouver toujours le même fromage. Il y en a qui vont réussir à plus bleuir, moins, et c'est un petit peu la patte de l'homme qui est différente avec, Oui, mais c'est assez intéressant d'aller les voir et de voir un petit peu leur fabrication, le sérum qu'ils laissent dans la cave pour que ça puisse ensemencer les fromages. Et c'est la patte du professionnel et puis de l'amour qu'on met dans le travail.
Et tu bosses en direct avec eux ou justement tu passes par un affineur comme Jean-François Paccard pour le bleu de Termignon?
Alors en fait, je fais les deux. Ouais. Ça veut dire que tous les ans, je lui en réserve 30.
Ouais.
Et après, je le mets chez l'affineur, qui s'occupe, Jean-François ou Géret, en tout cas, il s'occupe d'avoir mes. Je lui amène mes fromages tu t'occupes de mes fromages, tu t'en occupes pour parce que j'ai pas suffisamment de place. Ouais. Et puis c'est vrai un vrai métier de surveiller les fromages, de les retourner, de regarder comment ils évoluent. Donc ça, c'est moi je les finance en début de saison, dire que je les paye tout de suite. Et puis après, je les fais affiner avec.
Comme ça, tu les sélectionnes, tu choisis ce que tu veux en fonction de tes goûts et
c'est aussi le fait, oui, parce que le Termignon, il est complètement. Là, on est encore en train de d'utiliser les Termignons de l'année dernière et on va avoir les prochains dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc entre le Termignon qui a quelques mois, qui est blanc, qui est complètement différent, qui est presque sucré, et le Termignon qu'on a en ce moment qui a une année, où là, c'est un fromage de caractère. Qui est puissant. Donc c'est deux fromages complètement différents. Mais on a ça, on a les persillés de Digne de Madame Marmottan. Ouais.
Paulette Marmottan. Mais là, c'est la dernière.
Il y a sa fille qui a repris. Anémone qui a.
Tu me l'apprends. C'est une bonne nouvelle.
La grande championne de ski Anémone prend la succession de Paulette. Voilà, exactement. Donc c'est bien d'avoir une pérennité dans la production et que ce soit des pérennités familiales.
C'est encore un fromage très ogéen, parce que de mémoire, je crois que c'est un mélange en plus de lait de vache et de.
Exactement. 50-50. Je suis pas sur la balance, mais oui, voilà. En tout cas, c'est un vrai mélange.
Les vaches et les deux, je ne me rappelle plus, brebis ou chèvre.
C'est un vrai fromage qui, en fait, c'est des producteurs, c'est des tours de main qui se font passer de famille en famille et c'est juste extraordinaire. Donc là, c'est deux fromages un petit peu hors du commun. Mais après, il y en a tellement d'autres, hein, que ce soit l'Abondance, soit le Beaufort.
Et la charcuterie, parce qu'en venant sur la route avec Philibert, il me disait que, bon, on sait qu'en Savoie, il y a tellement de bons fromages, mais la charcuterie, c'est un produit un peu plus difficile à trouver. Qu'est-ce que...
La bonne charcuterie.
La bonne charcuterie, oui.
Ça regarde.
Alors, la charcuterie, oui, c'est aussi une, c'est aussi compliqué. Alors, moi, je fais mes saucissons. On a donc, on les fait nous. Ouais. On a la chance d'avoir un abattoir à Megève.
D'accord.
Parce que je pense que c'est le dernier abattoir qu'il y a en Haute-Savoie.
Ouais.
Il y en a sur Chambéry, mais il n'y en a pas sur, en Haute-Savoie. Et ça permet d'avoir un cahier des charges. En plus, c'est un abattoir où ils abattent 2 ou 3 jours par semaine. Je veux dire, ça reste à taille humaine. C'est pas très, très gros. C'est pas des abattoirs industriels où il y a, enfin, le bien-être animal. Ça va être compliqué de dire le bien-être animal quand ils vont à l'abattoir. Ouais. Mais en tout cas, le respect de l'animal jusqu'au bout. Voilà. Et ça nous permet d'avoir des cochons avec une traçabilité Rhône-Alpes.
Ouais.
Même mieux que Rhône-Alpes, Haute-Savoie.
C'est ça, ce que je disais à Daniel, c'est difficile d'avoir en général la traçabilité sur du port.
Alors, il y a quelques producteurs. Il y a un producteur sur Megève qui est en train de s'installer.
Ça, c'est super.
Et on devra avoir les premiers cochons à l'automne Megève.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est quand même bien d'avoir des produits où on sait d'où
il vient. Surtout que pour un cochon qui habite en montagne, je pense que ça doit lui donner des caractéristiques gustatives parce qu'il fait plus d'efforts peut-être qu'un cochon qui est.
Ça dépend un petit peu de la porcherie, ça dépend un petit peu de son alimentation. Ça dépend un petit peu de sa liberté.
Ouais.
Mais c'est vrai. En tout cas, on sait que c'est suivi. C'est sain.
Ouais.
On a, dans notre région, on n'a pas d'OGM, on n'a pas d'ensilage. Il y a plein de choses. Grâce aux AOC Beaufort-Roblochon, on n'a pas de pesticides nulle part. Ça veut dire que c'est bien. On peut se balader en montagne. On sait qu'on peut se baisser et ramasser toutes les plantes en toute sécurité. Donc ça c'est important, on est sûr qu'il n'y a pas de pesticides. C'est un petit peu grâce au Beaufort d'Alpage, au Reblochon, à l'Abondance, à tous ces cahiers des charges de qualité qui nous font, on a une nature, une belle nature, et c'est bon aussi pour nous, c'est aussi bien pour nos abeilles, c'est bon pour tous.
Je vois Philibert, il est tout content, quoi. Les choses viennent de la Savoie.
On pourrait faire 2 heures juste sur ce sujet. Juste, non, j'ai une question, parce que juste à côté, là, on sent des odeurs de fumée. T'as un fumoir ici?
Oui, on
tu fumes quoi dans ton fumoir? Les charcuteries, justement?
Non.
Tu fumes quoi? Attention.
Tu fumes ce qu'il veut.
Alors là, on a des petites pommes de terre nouvelles qu'on a.
D'accord.
Donc on fume des petites pommes de terre nouvelles. Alors là, je pense que c'est le service est dans pas longtemps. Donc à 7h06, ça doit être ou des œufs ou des pommes de terre qui sont en train de fumer. Voilà. Donc voilà, c'est un fumage à froid et on fait ça avant chaque service.
D'accord.
Voilà. Alors c'est pas pour fumer le produit que le produit soit fumé. C'est juste pour que le produit soit marqué.
D'accord.
Voilà, donc c'est juste pour souligner. J'aime le fumer, mais j'aime que le fumer soit délicat,
ouais.
Que ce soit pas quelque chose de trop puissant.
Prenne
mais
trop
que
de place. Ouais.
Voilà, c'est comme le maquillage. Il faut qu'il soit juste, juste fin et subtil. Et c'est pareil pour le fumage. Alors on peut fumer aussi bien avec des pommes de pin ou avec des genévriers. Alors on va s'adapter. On fait aussi nos fers à fumer, bien sûr.
C'est toi qui les fumes ou c'est les fers à Déric que tu.
C'est les fers à Déric
qui sont déjà fumés.
Ah non. C'est les fers à Déric qu'on reçoit ici, fraîches, qu'on sale et qu'on fume.
Ah,
ça nous permet d'avoir un fumage qui est plus moelleux, plus doux, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs de conservation. On veut juste que ce soit juste. On veut que quand on mange un morceau de fer à fumer, on veut que ce soit un bonbon.
Ouais.
On veut que ce soit juste fondant en bouche.
Juste une précision pour nos auditeurs. En fait, quand vous dites les fers à Déric, vous faites référence à Éric Jacquet, dont on va parler plus tard. En fait, on va rentrer dans les détails de l'expérience avec Éric Jacquet. Et une dernière question par rapport aux poissons. Quels sont les types des poissons qu'on retrouve au lac Léman ou
Alors, on va trouver bien sûr la ferra, de l'omble chevalier, de la perche, du gardon, de la lotte du lac.
La lotte du lac, je savais pas.
Ouais, la lotte du lac.
Trop bien ça.
La lotte, c'est que du lac.
Ah, c'est que du lac, je
sais. Ce qu'il y a dans la mer, c'est de la baudroie. Ils ont récupéré le nom lotte, Mais au démarrage, la lotte, c'est que du lac.
Moi, non, je savais pas.
Quand il y a la lotte de mer, c'est de la Baudroie. Donc, c'est un petit peu, ils sont adaptés. Je sais pas qui est malin, mais en tout cas, il y a des lottes du lac. Et des lottes du lac, c'est beaucoup plus petit déjà. Uh-huh. Ça ressemble un petit peu à un poisson-chat.
D'accord.
Et c'est tout moucheté. Uh-huh. C'est assez mou à lever. C'est pas un poisson avec une colonne vertébrale très. Mais en tout cas, il y a d'une part, il y a des fois de lottes qui sont juste magnifiques, ouais, quand on vient de les pêcher. Ouais. Et puis, il y a une chair où nous on a un classique de la maison qui est le biscuit de brochet et l'otte du lac, où on met les deux mélangés avec les foies de l'otte, et c'est juste un poisson très très goûteux. Ouais.
Et c'est quelle saison? Il faut respecter une certaine saison pour la pêche. Comment ça se passe?
Alors la pêche est fermée de fin novembre jusque fin janvier. Donc ça, c'est les fermetures de pêche. Mais après, il y a des fermetures aussi parce que il ferait pas au même moment. Après, il y a au mois de mai, les perches réouvrent. Je crois que les perches réouvrent fin mai ou mi-mai. J'ai pas les dates en tête, mais en tout cas. Et puis les truites du lac, pareil aussi. Il y a des très grosses truites dans le lac. Donc ça, il y a des périodes où c'est fermé parce qu'elles sont en
reproduction.
Elles sont en reproduction et puis elles sont en surface. Donc on fait attention à eux. Et puis les écrevisses du lac. Alors il y a plein de périodes. On a les écrevisses du lac. Quand le lac se réchauffe, ça veut dire qu'on a les écrevisses du lac de juillet à septembre. Avant les écrevisses du lac, elles sont tellement profondes qu'on ne peut pas en avoir.
Est-ce que c'est les écrevisses du lac? Je crois que j'ai entendu une fois une histoire où c'était un chef savoyard qu'un jour a fait ramener des écrevisses dans les lacs. Non, il n'y a pas une histoire comme
ça. Alors, les écrevisses, on avait des écrevisses sauvages qui venaient des rivières il y a pas mal de temps. Le fait que les rivières aient été un peu polluées il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, elles avaient disparu. Et on a réintroduit les écrevisses américaines dans le lac, et qui sont maintenant depuis plus de 40 ans dans le lac. Donc, elles ont appris le français et le suisse. Donc maintenant, elles se sont bien adaptées au biotope, et c'est une vraie écrevisse de grande qualité, en tout cas. Ouais, elle est très, très bonne.
Et qui doit évoluer, je suppose, avec les temps et s'adapter encore plus aux conditions climatiques.
Depuis le temps qu'elle est installée dans le lac, en tout cas, elle est que meilleure.
Et une dernière question, parce qu'on sait que tu as une vraie passion par les champignons. Quelles sont les variétés qu'on retrouve ici? Quelle est la saison?
Alors, on a beaucoup de champignons en montagne. Un petit peu de morilles, mais c'est au printemps et c'est la période un petit peu où je suis fermé. Donc, j'en trouve quelques-unes, mais je suis pas... Et puis, je connais quelques coins, mais plus dans la vallée. Ouais. Et par contre, à partir de maintenant, on a les premières girolles. J'adore les cèpes. On a la chance d'avoir une humidité la nuit et d'avoir des belles ramasses de cèpes, et puis d'avoir des quantités de cèpes qui sont des quantités, puis surtout sur la période. Ça veut dire qu'on va récupérer nos premiers cèpes à partir du début juillet, les 15 premiers jours de juillet, on trouve nos premiers cèpes. Et on va avoir les cèpes jusqu'aux premières gelées. Mmh. Donc ça veut dire jusque fin octobre, on va pouvoir trouver des cèpes. Ça veut dire qu'on a vraiment une grande saison. Alors après, il y a des moments dans la saison où il y en a beaucoup, beaucoup. Mmh. Et puis d'autres moments. Mais on arrive quand même quelque chose à avoir des champignons très régulièrement. Alors après, on a des mousserons, on a de la chanterelle massue, des chanterelles bleues. Mmh. On a des trompettes, on a de la quatrelle. La chanterelle modeste, la chanterelle en tube. On a pas mal, il y a une belle diversité. On a un peu de lactaire, on a un petit peu de, qu'est-ce que dire, des meuniers. Ah. Enfin, il y a une belle amanite vineuse. Amanite vineuse en début de saison, juste avant les cèpes. Enfin, ce qui est bien, c'est que quand on va voir la nature, quand on voit les amanites vineuses, quand on voit les amanites tumouches, on sait que les cèpes vont arriver. Quand on voit les petits meuniers, c'est des petits champignons blancs, c'est des champignons qui sont annonciateurs. On sait que par rapport aux saisons, on sait que quelques jours après, il y a les cèpes qui vont pousser juste à côté. Donc c'est bien pour ça de lire un petit peu la nature.
Mais je vais pas dévoiler nos sources, hein, mais on nous a dit que tu étais très doué et qu'à chaque fois que tu partais en randonnée dans la montagne, tu revenais avec énormément de champignons. Donc tu dois bien connaître les bons coins et peut-être même mieux que certains spécialistes.
C'est des mauvaises langues.
Ah, j'ai pas jugé, mais plusieurs personnes me l'ont dit. Et quand je t'entends parler de champignons, je sens que tu es un expert.
Bah, je propose du coup qu'on fasse un petit tour, qu'on aille voir peut-être ta ruche ou même les potagers pour que tu nous expliques un peu plus en détail.
Qu'est-ce qu'il y a dans notre jardin?
Voilà, on veut voir ça.
Aux alentours.
Allez, voilà, on y va, allez, c'est parti. Merci.
Donc Donc on est au potager, au jardin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit là, faire un petit tour avec nous?
Alors autour de l'hôtel, on va dire qu'on a 5 ou 6 jardins.
D'accord.
Et avec différentes expositions. Alors on va avoir des jardins qui vont être un peu plus humides, comme ici, où là je vais avoir des betteraves, des choux. Alors les choux, on a choux fleurs, choux pointus, choux raves, choux Bruxelles, choux fleurs.
Tu nous disais que tu avais 10 000 choux dans la propriété en fait.
1000.
1000,
parce que 10 000, 000 ça fait un peu beaucoup.
10 000 c'est un chantier. Ah,
il va falloir qu'on mette des rallonges.
Mais ils sont pas tous là les 1000 choux.
Non, mais là, on a vite fait d'en avoir une cinquantaine, même, 50. Ah ouais, là, il y a bien 400-500 choux ici, hein, à peu près.
Ouais, avec des variétés différentes.
Avec des variétés différentes. Et puis après, on a pas mal d'herbes aussi aromatiques.
Alors, qu'est-ce que tu as comme aromatique ?
On a quelques betteraves là-bas, on a les choux, on a la verveine, on a la ciboule, on a les fleurs d'oignon. Ouais. Ah. Alors, les fleurs d'oignon, c'est les oignons de l'année dernière qu'on a gardés pour avoir les fleurs cette année.
Ah, sympa.
Voilà, comme ça, on va utiliser ça dans nos petites. On va s'en servir comme condiment, ou on va les mettre au vinaigre. Voilà, il y a plein de possibilités. On a un peu de camomille là, on a un peu d'âge de montagne.
Philibert me parlait du thym des montagnes. C'est quoi,
c'est le serpolet. Mais je l'ai vu, il est pas là.
Mais le serpolet, on va marcher aussi dans les champs. D'accord. Il y en a partout, on va pas en planter.
Attends, au bord de la terrasse, justement.
Ah, c'est possible. Ouais. Mais celui-ci, au bord de terrasse, on le cueille pas, et puis on va accueillir celui où il y a qui est un petit peu partout. Et aux alentours. On a un peu de chiso, on a un peu d'origan, on a de l'oseille, on a du persil, on a semé de la coriandre, et puis on a toutes nos petites salades. Là, on a de la marjolaine, on a de l'agastache, on a une diversité.
Ouais, il y a une belle diversité là-bas, c'est des courgettes, c'est quoi ? Courgettes, ouais.
Mais ça, c'est pour récupérer
les fleurs.
Tout ce qui est fleurs. Mmh. On a des haricots de coco, on a des haricots beurre, des haricots verts, on a des petits pois, de la monarde, là, cette plante-là où il n'y a pas encore les fleurs. Mais
des petites fleurs rouges.
Et ben voilà, elles ne sont pas encore fleuries, mais d'ici, à mon avis, quelques jours, c'est des petites fleurs rouges qui ont des goûts de pamplemousse.
Tu fais quoi avec des infusions dans tes plats
On a une petite salade où on rajoute ça. Après, on a un petit peu l'estragon là, et puis on va aller voir les autres jardins parce qu'il y a pas mal de...
Bah on y va.
On va aller se promener dans les jardins, on va avoir pas mal de choses un petit peu différentes. Alors tout le monde en profite. Et puis comme on a nos abeilles, les abeilles pollinisent tout, donc c'est pas mal aussi.
Ah ça c'est la beauté du système.
Là on a les capucines. Alors, capucines on les a plantées il y a quelques semaines, donc les feuilles sont pas encore trop trop grosses.
On utilise les fleurs.
On peut utiliser les petites baies pour les utiliser comme des capres. On peut utiliser la feuille, les grosses feuilles, pour s'en servir comme pour faire une raviole. Il y a plein de possibilités.
Là, on passe côté du fumoir, hein, ça n'a rien à voir, mais j'en parle parce que ça m'inspire et ça sent bon.
Je sais pas ce qu'il y a dedans.
Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans hein.
Ah bah c'est fini, bah il vient de récupérer.
En tout cas,
Raté, ça marche pas à tous les coups.
Ah bah non, mais ça c'est pas vrai. Donc là, on a un peu de soucis. Là, on a du génépi qui est là.
Ah.
Mais du génépi.
Génépi, comment t'as fait
sauvage, hein, ouais, qu'on a mis.
Culture.
Exactement.
On s'est baladé.
Tu fais quoi avec le génépi? Mais là, t'en as pas beaucoup. Tu dois pas faire grand chose.
C'est juste pour le plaisir de le couper puis de le sentir comme ça.
C'est sympa. Donc là, on passe à côté des chambres d'ailleurs.
Alors là, on a encore des choux. Moi,
je vois que t'aimes bien les choux.
Ah, mais j'aime, c'est le chou rave, j'adore ça.
Ah ouais.
Le chou rave qu'on l'utilise cru, cuit. Bon, là, on a les salades, on les a repiquées c'est cette vrai. Semaine.
Ah ouais.
Là, il y a le persil.
Ah ouais.
Alors, pareil, le persil, on garde des rangs de persil d'une année sur l'autre pour récupérer les fleurs.
Ça, c'est quoi? C'est de la rhubarbe, là-bas?
Des radis, ça.
Ah, et là,
des radis.
Là, il y a les radis, et juste là, c'est.
On a un petit radis là, toutes les couleurs.
Ah, on les voit, ouais.
Ouais, ils commencent. Ouais, dans 2-3 jours, on va pouvoir les récupérer. Je sais même pas si on pourrait pas déjà.
Bah là, ils ont une belle couleur déjà. Bah voilà, pour l'apéro.
Petit radis.
Et ça, c'est de la rhubarbe, c'est quoi?
Ça, c'est la rhubarbe.
Ouais.
On a déjà fait une récolte. Là, il y a encore un peu de radis. Là, il y a quelques carottes.
J'avais pas vu, mais il y a vraiment des jardins partout, en fait.
Voilà, on a des jardins. Là, il y a un peu de serpolet au milieu du jardin.
Ah, bah voilà, tu vois, c'est les fleurs violettes là.
Là, il y a des céleri boules. Il y a encore des choux. Donc ça doit être des Bruxelles ou
finalement
brocolis.
J'étais pas loin à 10 000 hein.
Maintenant je comprends, 1000 choux je viens de croire, c'est ça qui est pas mal.
Allez, on monte.
Allez, on monte, là, ça te fait du bien.
Ah, tu as des vignes aussi, on n'a pas parlé des vignes en fait.
Vignes,
t'as quoi comme cépage là du coup?
Autochtone. Roussette.
Ah, roussette.
Roussette, petite arvine, mais ça donne que des feuilles entre nous. Quoi.
Ouais. Je pense que c'est les premiers podcasts enregistrés en montant là.
On peut tester la forme physique de Daniel.
Et là, on a.
Des courgettes, non? Quoi? Courgettes.
Des concombres là-bas.
C'est quoi ça? Il y a de l'aubergine là, non?
Aubergine, tomate.
D'accord.
Ah, donc t'as bien des tomates ici, mais tu dois les mettre sous serre
oui,
pour attendre fin août.
C'est la première année parce qu'on n'arrive jamais à avoir des... Alors, on a des... Elles vont être bien.
Ouais, puis il y a l'arrosage automatique.
On nous arrose.
Alors, ce qui est bien, c'est que l'arrosage automatique marche avec notre source.
Ah, très bien.
Ça veut dire que... Voilà.
Donc là, on va se rapprocher des ruches. Elles sont
là,
derrière.
Là, c'est les vignes.
On va aller voir les ruches, alors.
Là, il y a les pommes de terre. Ouais. Là, derrière, c'est les choux, les fèves, les haricots verts, les haricots beurre.
Tu feras rien, Daniel, il y a l'arrosage qui est juste là. Surtout que ça glisse.
J'avais même pas remarqué qu'il y avait du chou.
C'est parti.
Allez.
Là, on a encore des choux, des concombres, des courgettes.
Courgettes.
Des céleris.
Et ta source, du coup, l'eau, tu captes ici. Là, tu as une citerne d'eau et tu arroses.
Là, on capte là pour ici. Mais celle-ci, elle est là-bas. Et on a la source là-bas.
Et une question bête, mais tu sens des différences gustatives, par exemple, entre les choux qui sont en bas et les choux qui sont ici en haut?
Non, mais par contre.
C'est trop.
Il n'y a pas de différence. Mais par contre, pour les salades. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des salades qu'on va se servir qui vont mûrir plus vite,
ouais.
Où il y a de l'ombre, et puis ça nous permet de faire les rotations.
Ah, sympa.
Parce que les rotations, il y a un mois entre le moment où on la plante et le moment où on la récolte. Donc on est obligé de s'adapter.
Parfait, on va voir.
Vous n'avez pas peur des abeilles?
Pas du tout. Ouais, pas moi, non, vas-y, c'est parti.
Parce que là, on est
en pente sur de l'herbe mouillée. Ouais.
C'est sportif.
On n'est pas équipé pour.
Ouais, on va pas trop s'en approcher parce qu'on n'est pas équipé en effet. Qu'est-ce que ça va donner en audio ce podcast?
Tenez, hop, on va passer par là.
Passe par là.
Bah moi je passe à côté, mais
attention. Hop.
Alors là il y a de la reine des prés. Un joli.
Ça sent bon, hein.
Ah c'est le côté. La reine des prés, c'est le côté un petit peu amande, un peu. Et on s'approche des ruches. Alors qu'est-ce qu'il y a comme activité?
Il n'y a pas une histoire où faut ouvrir ça quand il fait beau, quand il fait moche et sont des dents? Il n'y a pas des trucs comme ça qu'il faut respecter?
Disons que les ruches, elles ont un mode de travail. Il vaut mieux y aller pendant la journée. Il vaut mieux aller voir les ruches si on veut récolter quand il y a du monde qui dort.
D'accord.
Voilà. Donc, il est clair que les abeilles qui sont les plus dangereuses, c'est les abeilles qui travaillent.
Bien sûr.
Donc, pendant la journée. Parce que les abeilles, entre le moment de leur vie... Elles ont un moment où elles sont butineuses pour récolter en fin de vie, mais avant elles amènent de l'eau, avant elles font la cire,
ouais, elles bossent avant
elles sont nurses, elles ont plein de jobs dans leur vie qui sont différents dans leur vie. Et une abeille, ça vit 4 mois l'hiver, mais l'été ça vit pas longtemps.
C'est clair.
Donc ça vit pas longtemps, ça vit 30-40 jours. Ah. Voilà, parce qu'elles sont en permanence en train de travailler. On va regarder.
Complètement. Ah ouais, c'est dommage qu'on ne peut pas filmer.
Confiance.
Voilà, là,
ouais,
elles sont en train de travailler. Là, elles bossent.
Ça sortir, là.
Et puis celle de la réhausse du... Ça, j'ai remis une réhausse il y a quelques jours, donc celle-ci.
Ouais.
On a récolté 2-4 ce matin. Donc, on a récolté une vingtaine de... Attends, on ne va pas passer par là. C'est quand même...
On ne va pas jouer.
On ne va pas jouer. Hein.
Et le miel que tu fais là, c'est quoi? Si tu consommes sur place, quel est l'usage?
C'est déjà le miel qu'on met dans tous les restaurants. Ouais. Parce que là, on a 6 ruches ici. Et j'ai à Combloux une dizaine de ruches.
Ouais.
À Chamonix, j'ai 2 ruches. J'en ai 4 dans la vallée pour faire du miel d'acacia.
Ouais.
Où il y a des acacias. Après, j'en ai un endroit où je les mets pour avoir du miel de châtaignier.
Mm-hmm.
Comme ça, j'ai un petit peu de miel sélectif. Mais ici, c'est le miel toute fleur que je donne au petit déjeuner. Voilà. Ça permet aussi après, toutes les ruches que je balade à l'automne, je les ramène ici.
D'accord.
Voilà. Je les ramène ici. Comme ça, d'une part, ça me permet de les surveiller pendant l'hiver et puis de pouvoir les mettre où j'ai envie au printemps dès que les beaux jours reviennent.
Et quand tu dis miel de toute fleur, ici, c'est quel type de fleur? Fleur d'alpage? Donc, on a de la reine des prés, on voit ici.
Là, on a de la reine des prés, on a pas mal de choses. On a du trèfle, il y a une diversité qui est juste énorme. Et puis, il y a les fleurs que nous, on voit, mais il y a les fleurs aussi que nous, on voit pas, mais qu'elles voient.
Qu'elles vont chercher à 3
km. Parce qu'il y a du miel, il y a des fleurs qui sont très mielifères et d'autres fleurs qui sont moins mielifères. Ça dépend un petit peu de ce qu'il y a. Alors, on a une diversité toute la saison. En début de saison, on a le miel de pissenlit.
Mmh.
Moi, je le récolte pas. Je préfère qu'il soit mélangé. Mais c'est un miel qui est très lumineux, qui est très joli. Après, il y a le miel de sapin qui peut y avoir certaines années. Je raffole pas non plus, mais en tout cas, je préfère avoir un miel où il y a une complexité et un miel qui s'est fait sur toute l'année. Où nous, on fait une récolte. Hein. On est en montagne, on est à 1300 mètres d'altitude, et je veux leur laisser du miel pour pouvoir passer l'hiver.
Ouais,
donc moi, je veux que la ruche, quand je la laisse, quand on fait la dernière récolte, on va dire vers 15 août ou fin août, je veux leur laisser 40 kilos de miel dans leur maison pour qu'elles puissent passer l'hiver tranquillement. Malgré tout, je surveille pour qu'elles aient suffisamment de qu'elles subsistent à tout l'hiver.
C'est toi qui t'en occupes ou t'as un apiculteur qui vient te
Ah non, c'est moi qui m'en occupe. J'ai un de mes amis qui m'a formé. Et puis il me fait quand j'ai une question technique, je l'appelle, je dis tiens, il y a une ruche qui me fait ça, il me donne des petites astuces. Et puis il vient me voir. C'est un de mes copains qui est en Bourgogne et il vient me voir une fois par an. Comme ça, on vérifie, on regarde ce qu'on peut faire si je reprends des ruches pour l'année d'après ou si je. Cette année, on a eu 2 mois de printemps énorme avec des fleurs énormes, avec du beau temps, et c'est une année exceptionnelle pour le miel. Mais par contre, le fait que les ruches aient travaillé énormément, on a eu beaucoup d'essaimages. Ça veut dire que les essaims se sont séparés au printemps, et je crois que j'ai dû perdre 6 ruches, ouais. En fait 6 essaims. 6 essaims qui se sont séparés, c'est-à-dire qu'on avait des ruches qui étaient très très fortes et on se retrouve avec une ruche avec où il y a une moitié d'essaims qui est partie. Alors souvent il y a la ruche qui est tellement épuissante qu'elles font une autre reine et puis ils virent la vieille et gardent ou inversement.
Ouais.
Donc c'est assez amusant, c'est très passionnant d'ouvrir les ruches et de regarder ce qu'il y a dedans. C'est une vie qui est passionnante et puis de partager un moment avec eux, c'est vraiment quand je suis dans les ruches et quand je mets le scaphandre pour aller voir les abeilles, je pense qu'à ça, il faut être concentré et puis on étudie. Ils ont une vie vraiment trépidante et passionnante et c'est des bosseuses.
Et avec cette vue-là,
c'est incroyable. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on a 2 vaches au-dessus, donc on doit avoir une tarine, une abondance, je ne sais pas ce que
c'est. Il y a les vaches tout autour de... Alors, ce n'est pas des vaches qui font du lait. C'est des vaches qui sont tranquilles c'est la période où elles sont relaxes.
Ah. Ouais.
Voilà, elles grandissent ici avant d'être saillies puis de faire des petits pis. Donc c'était les génisses qui sont tranquilles ici quelques mois l'été, qui sont en pension.
Bah super. Bah écoute, merci beaucoup Emmanuel, je propose qu'on rentre peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites nous faire découvrir ou...
Non, je pense qu'on a fait le tour du jardin, on a vu enfin une partie, après il y a le poulailler mais il y a plein d'autres choses après
est incroyable, hein. Incroyable. Ça me donne envie d'arrêter les podcasts et de passer à la vidéo. C'est dommage.
C'est un peu plus sombre, mais même si je pense qu'avec de l'audio, on a réussi un peu à décrire ce qu'on a vécu.
Je propose de rentrer au restaurant pour qu'on termine et pour que tu nous expliques un peu l'offre que tu imaginais pour nos auditeurs. Ça te va?
Très bien. Allez,
on y va.
Alors Emmanuel, maintenant on va parler de l'expérience que t'as conçue pour nos auditeurs, justement pour refléter ton savoir-faire et ton univers qui est très riche, on vient de le voir. Est-ce que tu peux nous présenter cette offre et cette expérience exclusive que t'as imaginée?
Disons que ça va être un peu presque compliqué de la présenter parce que c'est pas quelque chose qui va être figé dans le marbre.
Ouais.
Parce qu'on va faire pareil que la cuisine, on va s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Ça va dépendre du moment.
Ouais.
Ça pourrait être aussi bien ça dépend quel jour ça tombe, mais ça pourrait être aussi bien une expérience avec commencer avec Eric Jacquet, mon ami pêcheur sur les bords du Léman, pour avoir une expérience de nuit. Alors là, ce sera pour les leftos parce que c'est assez fatigant. mais le lever du soleil
au lac Léman,
le lever du soleil sur le lac les jours de pêche. Alors attention, le lac ça peut être plat. Comme ça peut être mouvementé.
J'ai eu la chance de vivre cette expérience-là parce que j'ai eu la chance de connaître Eric Jacquet, je l'ai vécu et ça reste un des meilleurs souvenirs de ma vie, c'est super, mais c'est clair que ça dépend de la météo. Mais par contre, un lever de soleil sur le lac pour pêcher les poissons des lacs alpins que tu travailles, la ferra, l'ombre chevalier, c'est extraordinaire.
Bah oui, disons que ça va être un petit peu, surtout qu'il y a une quinzaine d'années, mes premières années, je faisais des poissons de mer.
Ouais.
Et il y a une quinzaine d'années, j'ai dit, mais attends, on arrête tout, on peut pas prôner une cuisine de terroir en utilisant encore des produits de la mer. Donc j'utilise des produits de la mer quand la pêche est fermée.
Ouais.
Mais dès que la pêche est ouverte, je suis 100% poisson de lac
local.
Voilà. Et j'ai un pêcheur Eric Jacquet où on a une vraie amitié en plus du travail.
Ouais.
Il bichonne. Donc ça peut être cette parenthèse avec Eric selon le moment.
Donc c'est vous partez en excursion. Donc toi tu avec nos invités, tu viens avec eux plus Eric sur
le bateau. On va à la pêche, on va passer un moment, on prend le petit déjeuner après retour de pêche avec Eric et après on reviendra ici. En général, c'est bien de faire une petite sieste en arrivant parce que c'est fatigant, surtout si on s'est levé de bonne heure. Mais alors, ça va être ça, mais ça va être aussi bien de pouvoir aller faire une ramasse de champignons, ouais. d'aller se promener, de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Alors, ramasse de champignons ou peut-être même découvrir, aller voir notre faune, notre flore ouais. Aux alentours de faire quelques heures de marche. Ce que je ferai, je vais surtout m'adapter aux personnes. Ouais. Je vais m'adapter aux personnes par rapport à leurs capacités, par rapport à leur envie, par rapport à la météo.
Ouais.
Ça va être une expérience qu'ils vont avoir, mais que je vais faire sur mesure
ça,
au
super,
moment.
C'est super.
Voilà, donc ça va, on pourra aussi bien aller voir plein de choses. On aura déjà sur la visite de la maison, ça autour, de pouvoir profiter du jardin, de pouvoir leur montrer un petit peu tout leur univers. S'ils sont passionnés, je leur prêterai une combinaison. On ira dire bonjour à nos abeilles,
ouais, voir les ruches.
Voilà, voir les ruches. Mais ouais, ça, c'est
ce qu'on a fait tout à l'heure.
Mais ça, c'est pas très long. Je veux dire, ouais. On peut passer un quart d'heure avec les abeilles ça, juste pour.
C'est la version soft, mais
voilà. Disons qu'on va, je m'adapterai aux personnes. Ouais. Voilà, c'est surtout l'adaptation de la clientèle, des personnes ce qu'ils voudront faire, s'ils veulent aller se promener, s'ils veulent aller voir des chamois ou autres.
Ramasser des champignons avec toi.
Si c'est le bon moment, c'est juste magique. Mmh. Faut juste se lever un peu de bonheur, c'est tout.
Oui, mais bon, ça en montagne, je pense que ça fait partie.
Oui, ça fait partie un petit peu de la quête pour être les premiers sur les coins champignons.
Pour voir des choses sublimes.
Au-delà de l'escapade, que je pense pour moi c'est l'apogée de l'expérience, il y a aussi quand même deux nuits à l'hôtel, donc ils vont pouvoir vivre cette expérience, dépasser deux nuits dans ces lieux magiques, quoi. Et surtout un dîner au restaurant étoilé.
Oui, bien sûr, un dîner avec nous. Alors, dans la mesure du possible, peut-être pourquoi pas en cuisine.
On a une petite table en cuisine,
de pouvoir un petit peu nous voir évoluer, et puis d'avoir une proximité, puisqu'on aura déjà eu une proximité dans nos promenades lacustres ou dans les bois.
Si c'est des gens qui aiment cuisiner, est-ce qu'ils peuvent donner un coup de main en cuisine aussi, couper des.
Ouh là là, il fait la grimace.
Donner un coup de main, je suis pas sûr, mais enfin, s'ils veulent venir le matin avec nous en cuisine ou passer un petit moment en cuisine pour voir des petites choses, on sera là pour leur prêter une veste de cuisine et ils pourront partager un moment avec nous pour pouvoir se rapprocher et de voir les casseroles de plus près.
Bah super, je pense que c'est vraiment une expérience incroyable et unique.
Donc il y a deux nuits, deux dîners ouais. Et cette fameuse escapade avec toi dans ton univers privilégié, donc soit la montagne, soit les lacs. Bah, c'est super.
C'est magnifique.
Bah écoute, merci beaucoup Emmanuel pour cette expérience très qualitative que tu as imaginée pour nos auditeurs. C'est clair que ça donne envie. On va mettre tous les détails sur le site www.thegoodbouffe.com. Merci également pour le temps que tu viens de nous consacrer et pour toute ton histoire, nous avoir expliqué ton parcours et cette relation fusionnelle avec le terroir savoyard qui m'est cher.
Merci beaucoup Emmanuel.
Ouais, avec plaisir, à très vite.
Salut. On espère que cet épisode vous a plu.
Toutes les infos sur cette offre sont disponibles sur les sites thegoodbouffe.com.
À très bientôt.